Bonsoir à tous. La session parlementaire du mois de mars s'est ouverte mercredi 15 dernier à l'Assemblée nationale, aussi bien qu'au Sénat, conformément à la constitution de la RDC. Cette ouverture intervient dans un contexte de crise politique où les deux chambres du Parlement et toutes les institutions à mandat électif sont désormais hors mandat, faute de la non-tenue des élections. Et puis le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur séjourne à Kananga pour résoudre la crise sécuritaire provoquée par la milice du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu. Mercredi, le vice-premier ministre Emmanuel Chadari a suspendu le maire de Mweneditu et son adjoint pour n'avoir pas protégé la population lors des dernières attaques de la milice du défunt chef Kamuina Nsapu. Ce sont là les deux thèmes de la tribune de presse de ce vendredi 17 mars 2017 qui font débat entre journalistes. Et je m'en vais saluer justement les journalistes. Jean-Marie Cambo, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joël Kadedanga, bonsoir.
Bonsoir, Franklin.
Vous êtes éditeur de l'hebdomadaire Impact News qui paraît ici à Kinshasa. Et au téléphone, Solange Lushi Kounsimire, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Vous êtes éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu, et aussi deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC. Et je salue aussi Sylvain Matundu qui assure la mise en onde de cette édition. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la revue de presse que nous présente Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. La rentrée parlementaire est l'un des sujets développés cette semaine par les médias quinois. Sur le plan politique, le phare rapporte l'aveu de Léon Kengo. Toutes les institutions de la République sont fin mandat. Il a souligné que la RDC traverse une situation critique et atypique, marquée notamment par le dépassement des mandats de toutes les institutions de la République. La prospérité qui relaie aussi l'allocution du président du Sénat souligne que pour Léon Kengo, la situation sociale du peuple a atteint les limites du supportable. Le gouvernement est donc invité à arrêter la dégradation des prix de produits de première nécessité, interpelle le site d'information congolais 7sur7.cd. L'Avenir reprend le discours du président de l'Assemblée nationale, Obame Nakou, et estime, quant à lui, que la priorité des priorités est la loi des finances 2017. Dans les prochains jours, j'avais eu à le signaler dans mon mot de clôture de la session extraordinaire de décembre 2016, ce sur demande du gouvernement, l'une de nos priorités législatives sera indubitablement l'examen de la loi des finances de l'exercice 2017, qui, pour des raisons connues de tous, n'avait pas pu être examinée au cours de la session budgétaire de septembre 2016, avoue Obame Minaku. Sur le plan politique, le président de la Chambre basse invite la SENCO à reprendre les négociations directes, écrit Forum des As. Pour lui, ces négociations devraient se poursuivre en vue de la conclusion de l'arrangement particulier nécessaire à la mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif signé le 31 décembre 2016, et ce, en perspective de la tenue prochaine des élections, fait savoir la prospérité. Concernant la dégradation de la situation sécuritaire dans le Grand Kassai, le site 7sur7.cd titre « Le VPM Chadari tend la main à la famille du chef coutumier Kamuina Nsapu ». D'après ce site d'information, le gouvernement opte pour la carotte et non le bâton en entamant des discussions avec la famille de feu, le chef coutumier tué par les forces de l'ordre en août 2016. Déjà, l'on signale la présence à Kananga de la famille du chef coutumier Kamuina Nsapu, visiblement disposé à trouver une solution négociée à cette situation d'insécurité et ainsi permettre le bon déroulement des opérations d'identification des électeurs qui seront bientôt lancées dans cette partie de la RDC. Forte pression de l'Union européenne, RDC, la souveraineté en danger, titre de son côté la prospérité. Alors que Forum des As parle des discussions tenues lundi dernier entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Chadari et la famille régnante de feu Kamuina Nsapu, notamment au sujet de son inhumation selon les us et coutumes, mais aussi l'intronisation de son successeur, l'Avenir se concentre sur les consultations du ministre avec les notabilités locales.
Merci Alain. Et dans l'actualité, on l'a appris hier tard dans la soirée, l'élection de Ahmad Ahmad le Malgache, 57 ans, à la tête de la Confédération africaine de football. Ahmad remplace le Camerounais Issa Hayatou qui dirigeait l'instance du football depuis 1988. Il a obtenu 34 suffrages sur les 54 fédérations africaines. Issa Hayatou a obtenu 20 voix selon les résultats communiqués à la 39e session de l'Assemblée Générale de la CAF qu'il dirigeait. Jean-Marie, vous avez aussi suivi cette actualité sportive. Comment vous avez analysé cette élection de Ahmad Ahmad?
Confrère, nous avons salué l'alternance à la tête de la CAF. Ça en était un peu trop pour Issa Hayatou.
29 ans passés à la tête.
Lorsqu'on a fait longtemps comme ça, à un moment donné, on a du mal à pouvoir innover. On a du mal à penser que tout ce qu'on fait est toujours bon et toujours meilleur. Mais je voudrais, par la même occasion, saluer l'élection d'un compatriote, Constant Omari, qui a été qui a été élevé, pratiquement il conserve sa place, mais j'ai aussi appris qu'il était candidat à la succession d'Hayatou, mais étant donné que c'est les pur petit de Hayatou, raison pour laquelle il n'a pas pu entrer se confronter avec lui.
Donc vous voulez dire aussi que la RDC a soutenu la candidature de Hayatou?
Non, j'ai dit que la fédération depuis toujours a toujours travaillé avec Hayatou. Mais à un moment donné, étant donné que Hayatou recevait des appels de tout le monde pour ne pas se représenter et qu'il s'est entêté, la RDC n'était plus avec lui. Au contraire, la RDC était avec le Malgache. Travaillaient ensemble avec Omari, ils étaient dans la même commission, raison pour laquelle la RDC s'est tournée de ce côté-là.
D'accord. Donc. Alors, Joël Kadi, quel bilan vous pouvez dresser de la présidence de Issa Hayatou à la tête de la CAF depuis 1988?
Non, il faut quand même reconnaître que le football africain s'est largement développé avec l'importation de nos joueurs en Europe et également
l'exportation, vous voulez dire?
L'exportation, bien sûr. Et il faut souligner le CHAN, le champion de locaux. Ça ne s'est fait que sur notre continent.
Oui.
Mais comme le président de la République, Joseph Kabila Kabang, l'avait dit en 2008, lorsqu'il avait accordé son interview à Jeune Afrique, il avait dit, je cite, que la durée dans le pouvoir use. Mais il a développé, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec Hayatou à la tête de la CAF. Bien sûr qu'il est arrivé des moments où il pouvait favoriser le Cameroun, c'est normal, ce sont les sentiments
patriotiques
d'avoir un déçu sur lui, sur les clubs camerounais, mais je crois qu'il reste le temps à Ahmed de poursuivre le combat là où il a trouvé, et l'a amené le football africain beaucoup plus haut. Mais nous attendons aussi le changement ici chez nous avec Omari qui doit également céder sa place à une nouvelle tête, de telle sorte que le football congolais aussi se développe.
Merci beaucoup. Alors Solange, est-ce que vous partagez aussi l'avis de Jean-Marie lorsqu'il dit qu'il salue l'alternance à la tête de la CAF?
Ah, tout à fait, cher confrère, je salue également cette alternance parce que c'est aujourd'hui une valeur, je dirais même une attitude de tous les dirigeants, quel que soit le domaine, d'observer une alternance et d'être prêt à laisser quand même à un certain moment la place à un autre d'apporter sa valeur ajoutée. Ce que je peux noter par rapport à ces remplacements, c'est que je trouve que les sportifs congolais sont contents. Ils trouvent cela comme un autre de soulagement, étant donné apparemment qu'ils étaient déjà étouffés par
Issa Hayatou.
Si beaucoup de compatriotes que je reconnais comme étant des sportifs se frottent les mains, donc c'est positif par rapport à nous. Mais avant de terminer, comme j'ai la parole, je voudrais partager avec tout le reste des auditeurs de Radio Okapi à travers la République démocratique du Congo et de partout ailleurs que nous venons, le Seigneur vient d'éviter les pires à la Corporation des journalistes ici au Sud Kivu. Il y a 10 confrères qui étaient partis à l'aéroport de Kavumu pour l'arrivée du vice-ministre de la justice. Et arrivé au niveau de Mouressa, le bus qui les transportait a fait un tonneau. Et il y a des journalistes grièvement blessés et d'autres légèrement. Mais on signale que le chauffeur est vraiment dans un mauvais état et présentement il est dans la salle d'opération. Donc nous sollicitons la compassion de vous tous afin que le Seigneur puisse aider nos confrères et les assister dans leur situation difficile.
Tous les journalistes autour de cette table ainsi que toute la tribune de presse compatit avec tous ces journalistes qui sont grièvement blessés et même avec le chauffeur. La deuxième actualité de la semaine, c'est le bilan à mi-parcours du processus d'enrôlement des électeurs dans 12 provinces. Plus de 18 millions d'électeurs enrôlés sur les 42 millions attendus. Ce sont les chiffres avancés par le rapporteur de la centrale électorale lundi 13 mars à Radio Capi. Et se félicitant de ce chiffre réalisé, Jean-Pierre Kalamba a indiqué que les prochains opérations dans les 13 provinces, dont Kinshasa, seront lancées d'ici mi-avril et devront durer 90 jours. Jean-Marie, vous avez suivi cette actualité. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ces chiffres comme le rapporteur?
Confrère Franquin, étant au parfum de l'actualité concernant l'enrôlement des électeurs et la révision du fichier électoral, je ne peux qu'être satisfait. Pour moi, le bilan est positif, mais la balle est maintenant dans le camp, notamment du gouvernement de la République, qui doit préparer les lois, parce qu'il y a des lois qui doivent accompagner la CENI, qui doivent lui permettre d'organiser les élections que tout le monde attend. Ce sont ces lois-là qui doivent venir du gouvernement et déposer au Parlement, que tout le monde est en train d'attendre.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Joël Cadet, 18 millions sur les 42 millions attendus, c'est aussi positif pour vous?
Oui, positif, dans la mesure où il faudrait que ce qui a été reproché, notamment dans la province du Nord Kivu, on a vu certains Rwandais se procurer la carte d'électeur, soit combattu. J'ai également vu, selon certains confrères qui ont rendu cette information à la publique, quelques enfants de 14 ans qui ont été également enrôlés. Je crois 18, c'est beaucoup. C'est suffisant, mais je pense...
Mais vous semblez dire qu'il y a aussi des mineurs là-dedans.
Tout à fait. C'est là qu'il faudrait que pour les autres provinces qui restent, que la CENI fournisse un effort pour que l'enrôlement ne soit pas monnayé. Ça a été décrié au quartier Golf à Lubumbashi, ça a été décrié dans beaucoup de coins de la République où les policiers qui sont commis à la sécurité des agents immatériels de la CENI exige d'être payé 1000 francs, donc ils monnaient.
Même en Ituri, ça s'est passé aussi.
Même en Ituri, je crois qu'il y a lieu que Kalamba et tous les autres puissent s'engager de telle sorte que toutes ces antivaleurs soient mises hors d'état, de telle sorte que tout le monde ait accès vraiment à se faire enrôler que de fatiguer les gens en leur demandant de l'argent.
D'accord.
Je voudrais dire un mot pour dire que dans tous les faits qu'il vient de dénoncer, que ce soit l'enrôlement des étrangers, des Rwandais et consorts, ces faits-là ont été portés à la connaissance des autorités de la CENI.
Donc pour vous, c'est
qui ont saisi la justice. Je pense que la procédure est en cours. Peut-être que des sanctions sont déjà intervenues pour que ces gens ne se reproduisent plus.
D'accord. Alors, Solange, est-ce que pour vous aussi ces chiffres sont encourageants à entendre vos deux précédents confrères?
Oui, je préfère utiliser le terme encourageant que parler des bilans positifs. Je ne dis pas que le bilan est négatif, mais si nous devons quand même comparer les deux chiffres, 42 millions et 18 millions, il y a de quoi se dire, bon, il y a des efforts qui sont fournis, mais il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être fournis pour aller au-delà de la moitié. Je reste optimiste. Lorsque je regarde l'engouement qu'on observe ces derniers jours, on voit que beaucoup de gens sont restés à la maison tout ce temps et ils ont attendu la fin de l'enrôlement pour se lever et aller se faire enrôler. C'est un très bon élément. Et je pense que les jours à venir, peut-être la CENI pourra aller au-delà. au-delà même du trois quarts du nombre auquel il s'attendait. Cependant, je dois également stigmatiser ces quelques points négatifs qui ont été observés. Et vous savez, si les journalistes tombent sur un cas pareil, peut-être qu'il y en a déjà 100 qui ont échappé. Et donc, il fallait aussi s'attendre à cela. Vous connaissez vous-même le contexte de l'Est du Congo. Donc, il fallait déjà que la CENI soit prête avec des astuces pour barrer la route à des tentatives pareilles.
D'accord. Oui, Jean-Marie, je vais vous redonner la parole. Vous reviendrez en tout cas. Nous entrons dans notre premier thème de la soirée qui concerne la rentrée parlementaire. Et donc, cette rentrée parlementaire intervient le 15 mars dernier. Dans son discours prononcé à cet effet, le président de la Chambre basse du Parlement a dressé un bilan positif du travail abattu par les députés au cours de la législature 2011-2016. Il a par ailleurs fixé l'opinion en annonçant que cette session ordinaire va prioritairement se pencher sur le vote du budget 2017, l'investiture du nouveau gouvernement, mais aussi le vote de toutes les lois relatives à l'organisation des élections dans le délai convenu. On écoute le président de l'Assemblée nationale dans cet extrait.
La session actuelle sera marquée par l'avènement annoncé d'un nouveau gouvernement. Cette session sera une session vouée aux enjeux électoraux. Je saisis cette opportunité pour nous convier à nous préparer, chers collègues, à affronter de nouveau les méandres du suffrage universel. Invitation nous est adressée de nous atteler à faire adopter en toute diligence toutes les lois ou révision des lois y relatives. Nous pensons que le gouvernement devrait, au plus tard le 10 avril, déposer en l'état les projets de loi liés aux élections, hormis bien évidemment celui relatif à la détermination du quota des circonscriptions électorales, parce qu'elle est tributaire de la clôture de l'enrôlement. Le gouvernement devra également veiller au dépôt urgent d'un projet de loi organique en vue de l'institutionnalisation du Conseil national de suivi de l'accord.
Et pour sa part, le président du Sénat, dans son discours, a insisté sur la nécessité de mettre en application l'accord du 31 décembre afin d'éviter au pays le chaos. Toutes les institutions électives étant fin mandat, Léon Kengouadondo s'est dit aussi inquiet par la situation sécuritaire et socio-économique qu'il a jugée critique et préoccupante à travers le pays. Les détails, c'est avec vous, notre permanent au Parlement, Michel Kifinda.
Saluant la mémoire du sénateur Joseph Kongolo et de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi, le président du Sénat a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de la CENCO, dont il donne ici les grandes lignes. Léon Kengouadondo.
Cet accord politique a porté à notre pays les principaux acquis suivants. L'engagement renouvelé de la classe politique à ne procéder ni à la révision ni au changement de la Constitution. Le maintien en fonction du président de la République en exercice et l'engagement renouvelé de celui-ci à ne pas briguer un troisième mandat, le maintien en fonction de toutes les autres institutions en mandat électif.
La situation sécuritaire et socio-économique jugée précaire n'a pas laissé indifférent le président du Sénat.
Comme vous le constatez, la situation sociale du peuple a atteint des limites insupportables. On constate la montée vertigineuse de l'inflation. Celle-ci a engendré l'emballement de prix et la détérioration du franc congolais. Le problème est donc dans la gestion de l'économie.
Léon Kengouadondo a donc lancé un message de paix et de patience à la population en entendant la tenue des élections à la fin de cette année, conformément à l'accord du 31 décembre 2016.
Dossier signé Michel Kifinangoy, notre permanent au Parlement. Vous venez de nous prendre en cours. Sachez que Berry Franklin Luchaka, qui vous présente cette tribune de presse, reçoit dans ce studio Jean-Marie Nkamboa, directeur de publication au journal L'Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa, Joël Kadidanga, éditeur de l'hebdomadaire Impact News, paraissant à Kinshasa, et Solange Nsimire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu, et aussi deuxième vice-présidente de l'UNPC. Première question à vous, messieurs, ce sera à bâton rompu. Comment vous avez analysé cette rentrée parlementaire, Jean-Marie?
Merci Franklin pour la parole. Je voudrais d'abord apporter un petit éclairage dans l'opération d'enrôlement et de révision du fichier électoral pour dire qu'il est vrai que la CENI a sa part de responsabilité. Reconnaissons aussi que l'État congolais a sa plus grande responsabilité dans la mesure où lorsque les gens viennent pour s'enrôler, ils ont des documents qui sont délivrés par les services de l'État et ce sont ces documents qui sont contrôlés par les agents de la CENI avec l'appui du quartier et de toute la cité. D'accord. Donc, s'il y a des fraudes, des consorts, il est vrai que la CENI a sa responsabilité, mais la grande responsabilité
c'est l'État congolais. Très bien, on a compris.
Voilà. Parlant de la rentrée parlementaire, je ne voudrais pas revenir au contexte, un contexte qui est très morose, un contexte qui est très mauvais,
et
un
très
contexte
difficile aussi,
qui ne donne pas de l'espoir de vivre en RDC. En dépit de ce contexte-là, à en croire les deux présidents des chambres, nous constatons quand même que nous avons commencé une session qui sera essentiellement électorale dans la mesure où les yeux sont braqués vers la CENCO, où doit nous venir un très bon signal, c'est-à-dire que c'est de la CENCO où nous aurons la proposition d'un premier ministre issu du Rassemblement, et je pense un choix que le président de la République ne pourra qu'entériner afin de permettre à la machine gouvernementale de fonctionner pour que au plus tard au 31 décembre que l'on puisse offrir au peuple congolais des élections qu'il attend depuis longtemps.
Très bien, Joël Kadé, est-ce que vous êtes d'avis avec les arguments qu'avance Jean-Marie?
Totalement d'accord pour une fois. Je trouve le plus haut gradé de notre métier très très lucide aujourd'hui lorsqu'il a peint le tableau très sombre que traverse notre pays, où tout est au rouge, la situation sécuritaire est tellement dans un niveau de l'insupportable, l'année sociale a atteint les niveaux comme Léon Kengo l'a dit, mais il y a une sorte d'envoûtement de notre classe politique.
Comment
Léon Kengo a bien établi ses diagnostics, mais à un moment donné, il ne faut pas que l'on s'arrête à peindre un tableau noir, mais sans y apporter des solutions idoines. Apporter les solutions idoines, comme il a constaté que toutes les institutions aujourd'hui sont illégitimes, elles sont fait mandat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il devrait démissionner. Moi, je ne vois pas à son âge qu'est-ce qu'il peut encore gagner. Il peut démissionner et même solliciter la dissolution.
Donc, pour vous, il fallait que tous les députés et sénateurs disent on ne va plus siéger parce qu'on est hors mandat?
Parce que vous savez, la conséquence aujourd'hui, c'est quoi, Berry Franklin, Lutsiaka? La conséquence, c'est que on va légitimer tout recours à la violence sur toute l'étendue du pays. On va parler de l'affaire Kamuina Nsapu. Mais est-ce que vous savez que quiconque aujourd'hui veut recourir à la violence, il va tout simplement dire que nous sommes en face des personnes qui n'ont plus notre confiance, parce que c'est ça la légitimité, c'est la confiance.
Et donc d'après vous, ils n'ont pas de légitimité, ils ne devraient pas siéger?
Non, pas siéger, ils sont protégés par la loi, ils sont au regard de la loi, ils ont la légalité mais non plus la légitimité. Ça c'est de un. Et quand vous entendez les discours de Aubin Minaku, c'est pratiquement là où cet envoûtement est tellement sérieux. Quand il présente le bilan de cette législature positive, non mais là il faut être vraiment envoûté pour dire des choses comme ça. Qu'est-ce que ce Parlement a fait sur le gouvernement en termes de contrôle? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a été retenue, non pas comme temple, comme il l'avait dans sa campagne, comme temple de la démocratie, mais c'est là où la démocratie a été tuée, c'est là où la démocratie a été immolée, c'est là où la démocratie a été enterrée, avec de lois qui ont été votées même le jour de nos héros nationaux, et qui ont provoqué mort d'homme dans ce pays. Je crois que Aubin Minaku devrait avoir honte de dire que cette caisse de résonance de la majorité présidentielle qui n'a fait qu'enregistrer la volonté, les vœux de la majorité présidentielle, n'a pas à dire qu'elle a travaillé positivement. Par contre, toutes les initiatives de quelques députés comme Bindoulé ont été étouffées pour ne pas contrôler le gouvernement Matata qui a plongé aujourd'hui ce pays dans le noir.
D'accord.
L'inflation
Aujourd'hui, on est, le dollar est pratiquement à 140. Je venais de changer de l'argent. Et vous avez les prix des premières nécessités qui connaissent un emballement très grave.
D'accord.
Et
je vous redonne la parole.
On est dans une impossibilité. On n'a plus de réserves.
Très bien.
Ce qui fait que demain, après-demain, dans un mois, nous sommes dans l'incapacité de tenir les deux bouts du mois. Et conséquence, la situation est tellement grave. Mais les gens, c'est quoi encore tout leur permis parce qu'ils sont pris en charge.
Je vous redonne la parole, posons quand même la question à Solange, qui est à Bukavu. Solange, comment Bukavu a vécu la rentrée parlementaire?
Ok, merci beaucoup. Je voudrais me permettre de comparer notre grand pays à une famille nombreuse qui se retrouve aujourd'hui orpheline, totalement orpheline. Sans parents, ni père, ni mère, ni tante, ni cousin, ni je ne sais pas, neveu. Une famille qui est désormais vouée à ne vivre que grâce à la charité des hommes ou des femmes qui craignent Dieu. C'est le cas de la République démocratique du Congo, car nous avons affaire, lorsque je parle d'orphelinat, il s'agit d'un orphelinat où les enfants vivent ainsi alors que leurs parents, cousins, oncles et tantes sont encore vivants. C'est pour dire que nous avons affaire à toutes les institutions qui sont hors mandat et vraiment qui continuent à fonctionner dans l'illégitimité la plus totale. Si nous pouvons partir de la présidence de la République, on ne sait pas la présidence continue à fonctionner aujourd'hui avec quel mandat. C'est entre le deuxième et le troisième probable mandat est très controversé. Il s'agit également du niveau provincial, des gouverneurs des provinces, les anciens comme les nouveaux, qui sont également hors mandat, les assemblées provinciales qui ont dépassé de très loin la durée de leur mandat et qui sont dans l'illégitimité depuis des lustres aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant une famille nombreuse, si nous pouvons comparer l'étendue de notre pays à cette famille nombreuse-là qui a des enfants, 26 enfants, pour parler des provinces, et chaque enfant doit désormais se débrouiller. Alors c'est encore un appel à l'autoprise en charge, parce que face à toute cette force que représentent les institutions, il y a une autre force et nous ne devons pas la négliger, c'est le peuple. Malheureusement, on a comme l'impression que le peuple oublie qu'elle constitue également une force. Face à cette situation, il est difficile pour moi, qui suis de Bukavu, qui suis de l'Est du Congo, de parler d'institutions, dans la mesure où nous continuons à baigner dans l'insécurité la plus totale. Lorsque on nous fâche en nous parlant des institutions, nous on se demande il y en a au moins en République démocratique du Congo.
Alors très rapidement, Solange, à la lumière de ce que vous peignez comme tableau, est-ce que vous pensez que les députés et sénateurs pourraient accepter de ne pas siéger comme ils sont hors mandat? Très rapidement.
Oui, je peux prendre l'exemple d'un député de national de Bukavu qui était venu à Bukavu, qui a parlé devant le public et qui a dit à tout le monde que lui, son mandat était fini et que voilà, donc il était parti pour 5 ans et qu'il était prêt à tout lâcher. Peut-être qu'il n'est pas le seul, qu'il y a d'autres députés nationaux, mais le problème c'est que avant de voir le peuple, ces gens qui sont au Sénat et qui sont à l'Assemblée nationale, ils voient d'abord leur ventre et la peur du lendemain fait que beaucoup vivent dans un aveuglement qui ne leur permet même plus de se rappeler les mandats pour lesquels ils se retrouvent dans ces institutions.
Merci beaucoup. Alors, revenons un peu, parce qu'on a évoqué quand même l'application de l'accord de la CENCO. Jean-Marie, l'opposition accuse la majorité de vouloir bloquer la mise en application de cet accord en invoquant les luttes internes au sein du Rassemblement. Qu'en pensez-vous?
Franklin, je ne prendrai pas le risque de contredire les deux éditeurs qui sont sur ce plateau. Je voudrais d'abord, d'emblée, tout simplement dire que par rapport à la fin présumée des mandats des députés et sénateurs, je voudrais tout simplement renvoyer nos auditeurs dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon cet accord-là, toutes les institutions à mandat électif des maires jusqu'à la convocation ou à l'organisation d'autres élections.
Ça comme, pour dire, comme pour dire que tout c'est aujourd'hui que nous pouvons appeler comme sénateur, comme député, comme président de la République, ainsi de suite, leur mandat court jusqu'à à l'organisation des prochaines élections. Donc pour
très
l'instant,
bien, on ne peut pas se permettre de
dire comme ils sont hors mandat, ils ne peuvent pas faire quelque chose, non.
Mais vous voyez, vous avez vu cet exemple que nous a donné Solange qui dit qu'il y a un député qui
bien
a dit
sûr.
Au peuple
oui,
que
mais...
son mandat est terminé.
Oui, mais...
Peut-être qu'il fallait que...
Je ne sais pas si ces députés-là comprennent quelque chose. Parce que pour l'instant, nous sommes régis par l'accord de la Saint-Sylvestre dont nous sommes en train de nous battre pour avoir un arrangement particulier.
Mais alors, aussi, par rapport à cet arrangement particulier, c'est là que vous êtes, la majorité est accusée par l'opposition de vouloir bloquer.
Oui, je vais y arriver, confrère.
Rapidement,
je vais y arriver. Si, et seulement si, au niveau des institutions, on ne peut rien faire et qu'on laisse la situation pourrir ainsi de suite. Mais je me rends quand même de plus en plus compte, par exemple, quand elle parle de la vie de Bukavu, qu'est-ce qui empêche le gouverneur des provinces de pouvoir mettre fin à l'insécurité? Qu'est-ce qui empêche aux autorités provinciales de pouvoir s'occuper des questions de la population? Donc ça, c'est un problème de leadership, de gestion des institutions, de gestion de la population pour laquelle on a reçu un mandat.
D'accord.
Lorsqu'on se permet...
Joël Kadiata aussi de pouvoir parler.
Voilà. Dans le contexte actuel, je ne peux pas, sur ce plateau onusien, affirmer qu'il y a un camp qui bloquerait l'arrangement particulier au détriment d'un autre, dans la mesure où il est vrai qu'on a assisté à la création, au moins dans quelques jours, des trois rassemblements.
Oui, oui.
Mais aussi longtemps que la CINCO a renoué avec les pourparlers, moi, je ne peux qu'appeler la population à espérer, à accorder un certain crédit au travail qui va faire la CINCO, pour qu'à la fin, que chacun d'entre nous puisse tirer des conclusions. Si on se rend compte qu'il y a un camp qui freinerait, d'ailleurs, Monseigneur Outembi l'a fait observer, que l'Église ne se gênera pas de pouvoir dénoncer tous ceux qui, par des manœuvres dilatoires, veulent retarder la réalisation ou bien la concrétisation de l'accord de la Saint-Sylvestre.
D'accord. Alors, Joël Kadé, tout en répondant aussi à Jean-Marie, lorsqu'on observe un peu toutes ces luttes internes au sein du Rassemblement, est-ce que ce n'est pas aussi un frein par rapport à cette mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Très cher confrère, est-ce que vraiment dans un pays normal où il y a des gens sensés, on peut avoir des membres du gouvernement qui participent à la gestion d'un gouvernement, qu'ils se disent également qu'ils sont membres du rassemblement créé? Vous ne trouvez pas que d'abord c'est vraiment obscène, c'est vraiment honteux que des gens se constituent également, qui participent au gouvernement, pour se dire que nous sommes de l'opposition? Je crois que c'est une honte. On a atteint un niveau d'obscénité politique d'un haut niveau. Ça c'est de un. De deux, est-ce que le chef de l'État a besoin pour faire avancer les choses de la CENCO? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas se mettre au-dessus de la mêlée? Pourquoi mon confrère ne se limite qu'à une disposition qui favorise ceux qui sont au pouvoir? Dans cet accord de la CENCO, on a dit dans 12 jours, les radios, les télévisions qui ont été fermées devront être ouvertes. Quel est le seul média qui a été
ouvert.
Déjà ouvert? Aucun. Dans cet accord de la Saint-Sylvestre, il a été dit que les prisonniers politiques, dont les sept
emblématiques,
devraient sortir. Est-ce qu'on en a mis en pratique? Pourquoi on ne peut que se cramponner que sur ce qui les avantage et ce qui concerne la population tout entière, la mise en place des autres dispositions qui sont contenues dans cet accord, on ne recourt pas à ça.
Non, pour vous,
mais
en un mot, c'est la majorité qui bloque.
Non, mais c'est la majorité parce qu'elle ne se cramponne que sur non ceux qui ont les institutions à mandat électif, ils doivent rester, mais toutes les autres dispositions qui ont été levées dans cet accord, la majorité refuse de mettre cela en pratique. C'est pour vous dire que ces gens n'ont pas besoin que le peuple soit à l'aise. Solange a dit que la population ou le peuple, c'est aussi une autre force. Je crois qu'il y a lieu, qu'il est temps, qu'il est urgent que notre peuple comprenne que le testament nous laissé par M. Laurent Désiré Kabila, tout comme par Tshisekedi, c'est la prise en charge. Il est temps. Vous avez vu, c'est avec larmes aux yeux que j'ai pris ces tableaux peints par Madame Solange, où il vous dit que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de parents. C'est-à-dire, nous avons des gens illégitimes qui sont au-dessus de nous, mais qui ne peuvent plus nous engager dans la mesure où ils n'ont plus notre mandat, ils n'ont plus notre confiance. Tous les actes qu'ils posent aujourd'hui, ils engagent qui? C'est la dictature qui est revenue. Et vous allez comprendre, chers confrères, j'ai fini par là, la seule réussite. Et la plus grande réussite, le plus grand succès du président Joseph Kabila, c'est de nous avoir replongé dans l'illégitimité de toutes les institutions de 1990, avec comme conséquence, à un moment donné, nous serons constipés à tel point qu'un autre musée Laurent Désiré Kabila peut sortir, une autre AFDEL, un conglomérat des aventuriers, peut sortir de n'importe où et briser tous les efforts de la démocratie. Nous étions déjà habitués à laisser les animateurs qui sont de notre volonté. Je puis aujourd'hui, que Patrick Muyaya me représente au Parlement. Je suis heureux. Voyez un peu l'état même de la ville de Kinshasa aujourd'hui.
Merci beaucoup. On va vous donner la parole dans quelques minutes. Solange, très 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 rapidement, pensez-vous que les deux camps aujourd'hui ont le souci du peuple en s'étiraillant de cette manière?
Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même un peu me tourner vers notre confrère Jean-Marie, qui a parlé de la sécurité en évoquant la responsabilité du gouverneur de province et compagnie. Je voudrais nommer Jean-Marie gouverneur du Sud-Kivu. Il ne sera pas mieux que celui qui est là, étant donné que vous le savez, dans l'est du Congo, il y a eu, à un certain moment, une circulation intense des armes légères et de petit calibre qui font encore des ravages aujourd'hui. Je ne vois aucun gouverneur de province venant de n'importe quelle académie qui viendrait à Bukavu et que, sans vraiment l'implication du gouvernement central, qui puisse oser affronter cette question de sécurité s'il n'y a pas de mesures qui sont prises au niveau central pour traquer tout le monde et organiser la sécurité la journée comme la nuit.
D'accord.
En tout cas, j'aimerais que mon confrère Jean-Marie puisse retirer cela parce qu'il connaît la situation, mais il se cramponne à présenter des exemples qui n'ont pas de poids vraiment devant les yeux des gens qui souffrent dans cette situation.
D'accord. Alors, très rapidement sur cette question, avant de finir.
À la question qui m'est posée, il a déjà été démontré, noir sur blanc, que la volonté politique pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve est totalement absente. Je récupère encore ce qui a été relayé par mon confrère Joël Sadé. Nous devons procéder par l'autoprise en charge. Nous sommes une force et je ne vois pas les membres de toutes ces institutions mises ensemble qui peuvent représenter grand chose par rapport à nous si le peuple se met debout et que le peuple dise stop à toutes ces agitations, stop à toutes vos caprices. Bon, pas tout ce que vous faites, nous reprenons notre pouvoir, nous voulons organiser le pays.
Merci beaucoup. Et donc, on va aller rapidement parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. On passe à notre deuxième thème de la soirée qui concerne le dossier sécuritaire à Kananga. Sachez que Poncien Tshibanda Tondoi, maire de la ville de Mweneditu, et son adjoint Albert Mukadi sont suspendus de leurs fonctions dans une décision prise mercredi 15 mars. Le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre en même temps, Emmanuel Ramazani Shadari leur reproche, je cite, de n'avoir pas correctement joué leur rôle pour protéger la population lors des troubles provoqués par la présence des miliciens comme une ensapo. Fin de citation. Jean-Marie, vous avez suivi cette actualité. Comment vous avez analysé cette décision du vice-premier ministre?
Merci, confrère. Un petit crochet au niveau des Bukavu. Je voudrais tout simplement répondre à Solange pour lui dire que l'homme est seul à être lui. Il n'a pas d'intermédiaire. Je voudrais qu'elle comprenne que si Tshisambo a été une recette, Jean-Marie en est une autre.
Très bien.
Par rapport à la situation d'insécurité qui a été créée par les miliciens du chef traditionnel Kamwina Safou, je voudrais tout simplement, avant d'arriver aux suspensions et nominations, recadrer les débats pour dire que il a été quand même constaté un changement d'approche.
dans l'ancien temps, l'approche qui a été mise en pratique, notamment par Évariste Boshab, n'a pas été appréciée par toute la population, également par les chefs coutumiers et par l'actuel gouvernement. Raison pour laquelle, avec Emmanuel Ramazan Shadary, l'approche a changé. Pour l'instant, on met en exergue l'approche politique ainsi que communautaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que là où il y a un conflit, on ne s'empresse pas à
mener là, on a, mais là, on a quand même suspendu de l'autorité.
Je vais y arriver. Là, je sais qu'au niveau des moyens dits, tout, il y a eu des répercussions du phénomène Kamwena Sapu qui n'a pas commencé à moyens dits, tout, mais qui a commencé à Dibaya. Si à Dibaya, à Kananga, le gouvernement est là pour trouver solution, je pense aussi qu'ailleurs, des signaux doivent être manifestes, notamment dans l'appréciation de l'agir de ceux qui doivent gérer la population au quotidien. C'est dans cet objectif-là que moi, je pense que le maire et son adjoint ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas pu répondre à ces besoins qui voudraient que l'autorité locale puisse faire tout afin de protéger la population et ses biens.
D'accord. Alors, Joël Kadé, comment vous analysez cette décision?
Il y a un problème d'impunité dans ce pays. Moi, je ne vois pas comment le maire et le maire adjoint peuvent en être suspendus. Pourquoi on ne peut pas revenir à l'origine de l'affaire? Pourquoi n'avait-on pas, comme le confrère l'a dit, privilégié la négociation et on a préféré tuer Kamwena Sapu qui était dans ses droits, qui réclamait? Le PPRD qui a créé la situation dans tous les groupements au Kassai et partout ailleurs, où il y a des doublures en faveur de celui qui a signé la carte du parti du PPRD. Kamwena Sapu avait posé des conditions. Il est arrivé à Kananga pour être reçu par Kande. Kande ne l'a pas reçu. Pourquoi on ne peut pas d'abord commencer par suspendre Kande? Pourquoi Boshab peut encore être libre aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas le suspendre pour avoir privilégié la violence? Pourquoi dans l'Est, là, avec
le
M23
et les autres... Il n'est plus dans le gouvernement.
C'est-à-dire quoi? Il faut que des gens répondent de leur responsabilité dans ce pays. Il y a des gens qui ont créé la mort. Vous allez voir que la manière dont on agit dans l'Est, on négocie avec les M23, on négocie avec tous les groupes armés là, mais quand il s'agit du Bas-Congo, il s'agit de Eniel dans l'Équateur, il s'agit du Kassai. Aujourd'hui, moi, je condamne les génocides qui sont en train de se tramer au Kassai, les massacres contre les populations civiles. J'ai des bandes, j'ai des vidéos, très chers confrères, lorsque vous regardez la manière dont nos forces de l'ordre sont en train de brûler, d'incendier les caves des villageois, aujourd'hui, tous les villages au Kassai, ils sont dans la brousse, tous les villageois sont dans la brousse. Mais on privilégie là que la force, et cette force-là face aux gens non armés. Mais ces gens-là, ils doivent être protégés, même le droit de la guerre. On ne peut pas achever quelqu'un qui est déjà affaibli. Mais quand vous allez constater, mais il faut voir avec quelle arrogance, quelle insouciance, quelle indifférence, notre gouvernement réagit. C'est comme si ces gens-là n'avaient pas droit à la vie. Et pourtant, la Constitution dit expressément ce que je cite, la vie humaine est sacrée, elle doit être protégée.
Merci.
Voilà, voilà donc, je demande, si encore on a un sens d'humanité dans ce pays, que tous ceux qui ont contribué à l'enlisement de la sécurité dans le Grand Kassai soient sanctionnés, ils doivent répondre.
Solange, pensez-vous avec cette annonce, cette décision d'Emmanuel Shadary, la paix peut revenir à Kananga?
C'est une décision tout à fait hypocrite. C'est une décision tout à fait hypocrite. Ceux qui sont suspendus de leurs fonctions ne sont que des victimes. Dieu seul sait si derrière Kamwena Sapu, il n'y a pas une main forte qui a des moyens, qui a des armes, qui fait tout. Le fait de prendre des décisions du genre, ça me fait penser encore à Beni. À Beni où, avec des procès, on découvre qu'il y a des grosses légumes au niveau du pays qui sont même derrière les gens qui égorgent les autres, les gens qui tuent femmes, enfants, jeunes et vieux. Ça me fait penser à tout cela. Et moi, je me dis, toutes ces tueries, est-ce n'est pas un élément distracteur pour que les gens se mettent à s'entretuer entre eux au moment où le temps court toutes les discussions autour des aspects politiques pouvant nous amener à organiser des élections, à changer des donnes au niveau de la gouvernance du pays, que le temps passe pour qu'à un certain moment, on se retrouve devant un fait qu'on ne sache plus dire quoi.
Merci beaucoup. Alors, très rapidement, on va conclure sur ce thème. Qu'est-ce que le ministre Chadari devrait faire pour restaurer la paix finalement à Kananga? En un mot, Jean-Marie.
C'est le gouvernement de la République qui a adopté une nouvelle approche. On s'était rendu compte que le problème était essentiellement de la coutume et qu'il fallait, s'il faut trouver des solutions à ces problèmes-là, il faut revenir à la source, parler avec les chefs coutumiers.
Merci beaucoup.
C'est ça votre
conclusion.
Voilà.
Joël Kadé, rapidement, votre conclusion.
En un mot, il faut privilégier la négociation autant que cela est fait avec les groupes armés dans l'Est. Il faudrait privilégier également la négociation au lieu toujours de vouloir tuer, de verser le sang.
Merci beaucoup. Ce sera la fin de la tribune de presse de ce vendredi 17 mars 2017. Une édition coordonnée par Alain Irung, mise en onde par Sylvain Matundu et Berry Franklin Louchaka. Vous la présentez sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix et surtout bon week-end à vous tous.